Le grand témoin.
Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin dans ce studio avec moi, Fiyou Ndondoboni Monkoso. Il est architecte et président du parti politique Orange. Monsieur Ndondoboni, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Bonjour, c'est un plaisir pour moi également, madame.
Voilà, avec vous dans notre entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout en RDC sur la fréquence FM et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Je l'ai dit, on va vous présenter, vous allez nous parler de votre expérience professionnelle. Vous êtes architecte, ça fait combien d'années déjà?
Je suis à ma 16e année en tant qu'architecte professionnel parce que j'ai décroché mon titre d'architecte en 2000 et depuis lors j'exerce comme un architecte professionnel avec un parcours quand même assez modestement bon.
On va en parler dans cette émission, mais également on parlera de votre parti politique Orange.
Exactement,
qui a été créé en 2011.
Exact.
Majorité opposition.
Parti de l'opposition.
Pourquoi Orange?
Orange veut dire ordre pour des actions nouvelles et garant d'équité. Ordre parce qu'il y a un grand désordre, il faut remettre de l'ordre. Donc, si vous voulez qu'on en parle, on peut déjà...
On va en parler dans la deuxième partie de cette émission, mais on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né un certain 19 juin 1970.
Exactement. Où? Je suis né à Kisangani.
Vous avez grandi?
Non, je n'ai pas grandi. En fait, je suis né dans un moment où mon père était étudiant à l'université de Kisangani. Je suis né après, il est allé achever ses études, avoir sa licence à l'université de Lubumbashi. Et une autre personne est née là-bas. Après, il est retourné à Kinshasa. J'ai grandi beaucoup plus à Kinshasa. Mais la naissance, c'est à Kisangani, à l'hôpital de Kisangani, général de Kisangani, je crois ça.
Vous avez grandi à Kinshasa, dans quelles conditions?
Bon, les conditions normales d'un enfant normal, d'une famille modeste, assez bien éduquée, où le parent nous a appris de le bas âge la crainte de Dieu et les bonnes manières. Et j'ai fréquenté des bonnes écoles à l'époque, à Gombe, et puis je suis allé à l'Institut Monseigneur Bokele-Ale, ex-Lisanga, et après je fais des études d'architecture à l'Institut Bâtiment et Travaux Publics. Donc la croissance de le bas âge nous a montré le chemin de l'église, tout ça, les cadres d'épanouissement, c'était vraiment un bon cadre qui nous ont permis à déceler, avoir des bons modèles qui étaient des sources d'inspiration pour nous, et ce qui fait de nous aujourd'hui des personnes assez équilibrées qui nous permettent de rêver correctement pour les devenir meilleurs de notre nation et de notre peuple.
Alors, en parlant de l'Église, je vois que vous êtes, je ne sais pas si vous avez été ou vous l'êtes toujours, leader des jeunes de la communauté baptiste du fleuve Congo.
Exactement, j'ai été leader de jeunes pendant plusieurs années, près de 18 ans même. Leader de jeunes. J'ai eu cette responsabilité trop jeune. Il y avait, au départ, c'était au niveau de l'église locale, et puis c'était au niveau de toute la communauté, où il y a plus de 700 000 jeunes. Il fallait les encadrer, il fallait leur communiquer la pensée qu'il faut par rapport à l'évangile, et c'est là que nous avons...
C'est vous qu'on a choisi pour encadrer tous ces jeunes?
Oui, c'était une responsabilité sur... au départ, c'était au niveau de l'église locale. Et comme on a vu la capacité, la manière dont nous avons travaillé au sein de notre église locale, c'était à l'issue d'une première convention qu'on avait organisée de jeunes sous le thème jeunes reprend ton leadership, et cette conférence a eu un grand impact, et ce qui fait que les autorités de l'église ont bien voulu à ce que cette pensée soit communiquée autour de toute la communauté, et on nous a confié la responsabilité de vulgariser la pensée au sein de toute la communauté. C'est comme ça que nous étions connus facilement au sein de toute la communauté, parce que la communauté baptiste du fleuve Congo prend les langues du fleuve Congo, tous les langues du fleuve Congo, et à Kinshasa, Bandundu, Équateur, province orientale, tout ça, nous sommes dans toutes ces provinces-là. Et après ça, je suis revenu membre du comité de gestion de l'église locale, de la communauté baptiste du fleuve Congo, responsable de l'évangélisation, et je suis même un diacre.
Voilà. Ça, je ne savais pas, vous êtes diacre. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Je n'aime pas ce qui déplaît à Dieu, parce que tout ce que Dieu veut est bien. J'aime le bien de l'autre, je suis sensible au bien de l'autre, et quand quelqu'un ne considère pas l'autre, ça me dérange, parce que quand quelqu'un regarde l'autre par rapport au présent, je trouve que c'est injuste, parce que une personne ne dépend pas du présent, parce que le devenir nous cache beaucoup de choses, et je n'aime pas le mépris des autres. Je supporte pas ça.
C'est quoi votre plat préféré?
Imakayabu, Mfumboa. Je n'aime pas trop la chikwang, mais je commence à aimer quand même la chikwang, Mfumboa. Je suis de l'Équateur, donc le poisson, pratiquement le mboto, ça fait du bien. J'aime beaucoup ça.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance? Est-ce qu'il y en a un qui vous a le plus marqué?
Le plus grand souvenir, c'est les jours où j'ai rencontré Jésus dans ma vie. C'est le plus grand souvenir.
Vous aviez quel âge?
J'avais 14 ans, le plus grand souvenir. 14 ans et j'ai eu mon baptême à l'âge de 16 ans. Et j'ai renouvelé mon engagement avec lui à l'âge de 19 ans. J'étais un jeune, j'ai rencontré Christ non pas dans le contexte de la médiocrité, c'est-à-dire comme on dit que ceux qui viennent vers le Seigneur, ce sont des jeunes qui ont peut-être trop de problèmes. La famille était assez équilibrée, j'ai rencontré Christ dans un contexte où la famille avait le minimum vital. J'ai rencontré Christ dans ces conditions-là et depuis lors, je gardais cet engagement. C'est vrai, le haut et le bas ne manquent jamais, mais du moins je gardais cet engagement et c'est le plus beau souvenir. L'autre souvenir, c'était le jour, d'abord j'ai rencontré mon épouse, et puis le jour où on a dit que bon, on va appeler papa, c'était formidable.
Alors vous êtes marié, perdu combien d'enfants?
Quatre enfants.
Alors vous avez une licence en architecture de l'Institut du bâtiment et des travaux publics, IBTP. Hein,
exact. Ouais.
Et vous avez une riche carrière hein, professionnelle par rapport à vos études.
Exactement.
Il y a beaucoup de gens qui se plaignent et disent que c'est vrai que surtout en RDC, c'est pas facile d'avoir des marchés. Mais vous, je constate que vous avez travaillé avec des grandes entreprises quand même en RDC.
Exact.
En fait, RTL, à l'époque Celtel.
Oui.
Vous avez collaboré avec le BCECO.
Exact. En fait, les problèmes, c'est quand j'ai analysé la scène, le marché de l'emploi, je me suis rendu compte que tout avant d'avoir un travail, il fallait avoir un CV. Or, avoir un CV, il faut avoir travaillé. Personne n'offrait les conditions de créer un CV. Aussitôt que je finis à la maison, j'ai créé moi-même, j'appelais ça atelier d'architecture d'Ondoboni. Et j'ai commencé, et tout ce que je faisais sous l'identité de cet atelier-là. Et je me suis fait comme responsable de cet atelier pendant une année, deux ans. Tout ce que
à la maison,
petit,
je vois à la maison.
À la maison, oui, à la maison, j'ai commencé comme ça. Dieu m'a fait grâce d'avoir... je n'aime pas trop dépendre. J'aime crier. J'aime quand je vois, je crée quelque chose. Et j'ai commencé à la maison. Et chaque fois qu'il y avait des consultations avec une tierce personne, je fixais rendez-vous en dehors de la maison, dans un lieu quelconque. Et on se voyait, on discutait. Je me présentais vraiment comme un cabinet, un atelier d'architecture. Et c'est petit à petit, je faisais des en-têtes, tout ça. Et quand je fais la première présentation de mon CV, c'était tout simplement rassembler l'ensemble de toutes ces petites choses que j'avais fait. J'avais une page déjà, et c'était quelque chose. Et ce qui fait que quand je commençais, la Banque mondiale est arrivée, il fallait certains projets, et quand j'avais fait mon stage auprès de cabinet de l'ancien président honoré de la Société des architectes, M. Mouata, que je salue, il a demandé à ce qu'on puisse s'associer pour conquérir au marché de la Banque mondiale. Et c'est comme ça qu'on a dû commencer ensemble, et j'étais responsabilisé, comme j'étais jeune, pour m'occuper pratiquement de l'ensemble des projets. Et c'est là que c'était vraiment l'explosion. On a concouru à beaucoup de projets. Et j'ai développé mon CV, j'ai fait les tours du pays. Et à partir de ce CV, un jour, on avait fait une publication d'appel d'offres. Je voulais vérifier si notre appel d'offres était publié. J'ai vu à côté, il y avait également un appel d'offres de la société Celtel à l'époque. Je regardais, je dis, bon, le profil, ça peut aller. J'ai soumis mon CV, mais sans m'attendre à quelque chose parce que j'étais
positif,
j'étais déjà occupé en fait, parce que j'avais quand même quelque chose qui me permettait de nouer correctement le deux bouts de moi, tout ça, et j'avais le moyen de déplacement, j'avais chez moi, tout ça, c'était déjà faisable. Et quelques deux semaines après, on m'a appelé, je suis allé, on m'a posé des questions, j'ai répondu, ils ont dit directement tu commences. J'avais maintenant deux histoires de boulot à faire. Et j'ai commencé.
Mais comment combiner les deux? C'était facile.
Au départ, j'ai commencé comme consultant. Ça m'arrangeait. Et après, trois mois après, j'ai eu une autre proposition auprès d'une entreprise britannique. J'ai démissionné là-bas. Je suis allé de l'autre côté. On m'a proposé les salaires doubles. Je suis parti. Et pendant que je suis parti. Je suis parti. Au même moment, Celtel m'a réclamé que je rentre. Huit mois après, je suis rentré encore chez Celtel. Et là, je me stabilise un peu. Et j'ai signé un contrat. rentré avec eux, j'ai eu des très grandes responsabilités, pratiquement toutes les grandes infrastructures de cette société. Je suis allé construire à travers le pays, tout le BSI, MSI, tout ça, ça a développé même ma compétence côté énergie, côté télécommunication, côté la sécurité, tout ça, ça a développé vraiment, ça m'a, même dans le finance, parce qu'il fallait régulièrement défendre le budget annuel, faire des prévisions, préparer tout ça, et il fallait défendre, ça a développé vraiment des compétences. J'ai maintenant des compétences vraiment multidisciplinaires. Et évidemment, je suis arrivé au niveau le plus élevé que je devais avoir dans cette entreprise. Et après, il y a eu échange avec l'entreprise disant qu'il me faut quand même un départ volontaire. Je suis parti et maintenant, je travaille avec cette entreprise comme partenaire avec d'autres entreprises qui sont partenaires au sein de mon cabinet d'architecte. Et là, je suis général manager de mon propre cabinet d'architecte.
Il y a beaucoup de jeunes architectes qui rêvent de devenir comme vous, d'avoir des grands marchés comme vous. Mais c'est quoi le secret? C'est vrai, vous allez commencer à la maison, mais pour avoir des clients...
Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'avais un 10 dollars dans ma poche. J'avais rendez-vous avec un client. Je lui ai dit, on se voit en même ligne. J'avais 10 dollars, je n'avais pas de véhicule, je n'avais rien. On se voit en même ligne, je pris le taxi, je suis arrivé en même ligne, j'ai souri mes chaussures, lui m'attendait, et je lui ai dit, sers-toi quelque chose. Il a pris, je connais le prix, autour des 4 dollars, il a pris, il s'est servi, et quand je suis entré, j'ai présenté mes excuses, tout ça, tout ça. Et puis arrivé, moi j'avais un 10 dollars. Je regardais, je pris un truc de 2 dollars. Et au total, ce qu'on avait pris, ça faisait 8 dollars à peu près. À la fin, quand on a amené l'addition, l'autre voulait payer. Non, laisse tomber, je prends ça en charge. Je paye les 10 dollars. Le monsieur a amené les 2 dollars restants. Je lui ai dit, non, tu gardes la monnaie. Je me suis vendu. Donc, ce qui fait qu'auprès de ces clients-là, il ne peut pas accepter de mal me payer parce qu'il sait que ces messieurs, il a déjà un certain niveau. Les problèmes dans la profession d'architecture ou autre, c'est la perception que tu donnes auprès de l'autre. Si tu amènes une perception de la médiocrité, c'est comme ça on va te considérer. On peut faire le même travail, moi on me paye 10 000 dollars, toi on te paye 100 dollars. Mais c'est le même travail en réalité. Mais tout dépend de la manière dont tu te fais vendre auprès de ton client. Et ça c'est fondamental. Et j'ai réussi à me vendre comme ça. J'avais un rendez-vous avec un Français, c'était le rendez-vous était fixé à 12h, je l'ai entendu jusqu'à 12h30. Et je suis parti, et je lui ai laissé les messages, je dis, messieurs, apprends à être ponctuel. J'avais besoin de son marché. Mais il m'a donné beaucoup plus de considération, il avait fermé les yeux, disant que ce monsieur est très sérieux, je dois travailler avec lui. Donc, c'est un peu ça, il y a des choses sur lesquelles il faut
apprendre à se vendre, oui, on ne refuse pas, il faut apprendre à se vendre, mais... Comment trouver ces clients-là? C'est ça le problème, hein?
Ouais, en fait, hier, il y avait un stagiaire qui partait. On a fait une petite cérémonie de revoir avec ces stagiaires-là. J'ai invité tous les autres collègues au niveau du cabinet pour qu'on dise au revoir, on a échangé. J'ai dit à tout le monde ceci, chaque rencontre que vous faites dans votre vie, considérez ça comme une opportunité, si petite personne soit-elle. Considérez ça comme pour une opportunité parce que vous ne savez pas ce que deviendra la personne plus tard. C'est le relationnel. Donc, le relationnel, on le bâtit tout le jour de sa vie. Tu fais une rencontre avec une personne, fais de toutes sortes que la personne garde une bonne image sur toi parce que c'est cette personne qui peut t'apporter le marché, c'est cette personne qui peut t'inviter pour que tu fasses un travail. La dimension relationnelle est hyper importante dans la profession libérale.
Et c'est ça qui explique votre réussite dans ce domaine. Vous faites partie de plusieurs associations, des architectes, au niveau national, africain.
J'ai été le président de la société, j'étais le président de la commission Habitat de la Société des architectes pendant 4 ans. Je suis membre de la Société des architectes au Congo, je suis membre de l'Union internationale des architectes au niveau de l'Afrique, je suis membre de l'Union mondiale des architectes, je suis membre dans toutes ces associations-là. Donc, ce qui fait la force.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encourager les jeunes à embrasser cette carrière?
Oui, les Congolais à construire. Les Congolais, il y a beaucoup de choses à faire. Au total, aujourd'hui, on a moins de 1000 architectes dans le pays. Moins de 1000. Dans le tableau qui a été publié le mois dernier, des gens qui étaient en Nantes, c'était moins de 300. Le tableau des architectes. Imagine 300 architectes avec ce vaste Congo, c'est pratiquement impossible. Donc, je les encourage parce qu'il y a du travail à faire. Si on donne seulement...
Mais vous qui êtes déjà arrivés, vous arrachez tous les marchés. Vous ne permettez pas aux plus jeunes de pouvoir gagner tous ces marchés.
Non, c'est pas. Dans mon cabinet, j'ai des jeunes architectes Et la société des architectes actuellement a la politique, tous les architectes qui viennent, les nouveaux qui viennent, on a le nombre, on les dispatche dans les cabinets des architectes avec un minimum de sommes qu'on est censé payer à ces architectes-là pour le permettre, ne fût-ce que d'avoir le mouvement, les minimums qui le permettent de survivre. Donc quand tu acceptes un architecte, il y a un minimum, tu es censé le payer chaque mois en dehors de toutes les primes que tu donneras. Vous comprenez? Ça, c'est au sein de la société architecte. Et dans mon cabinet, j'ai deux architectes. Dans mon cabinet, j'ai des consultants ingénieurs, j'ai des consultants électriciens, j'ai tous ces consultants dans mon cabinet. Donc, ingénieur topographe, en construction, tout ça, j'ai tous ces consultants qui sont dans mon cabinet.
Fiyou Ndondobone Monkoso, vous avez remporté le premier prix concours mausolée, Mzé Laurent Désiré Kabila. Parlez-nous un peu de ce prix.
En fait, quand on a lancé le concours mausolée, nous étions à l'équipe 5. Nous avons fait un projet qui remplissait pratiquement le... C'était en 2001 ou 2, je ne sais plus, autour de ces années-là. Il y avait... On a sélectionné 4 ou 5 meilleurs. Nous étions dans l'équipe 5. Notre projet était le meilleur projet. Nous avons la lettre qui a été écrite parce qu'on était le premier. Mais on nous avait demandé de construire, matérialiser ce projet en stèle à Lubumbashi. Mais malheureusement, ça ne s'est jamais matérialisé. On a juste reçu la lettre. La suite, bon, il y a eu des modifications. Bref, d'autres personnes ont fait, mais du moins, nous avons été notifiés comme premier. Je crois que c'était la chose la plus importante parce que je me souviens à l'époque, j'étais chef de projet justement de notre cabinet qui est sous l'encadrement de l'ancien président de la société, M. Mouata et Michel Ngaki, qui nous encadrait, et c'est moi pratiquement qui gérais les projets. Donc, je me souviens cette nuit comment on a travaillé, monté la maquette, tout ça, nous-mêmes dans le cabinet, on a soumis les projets, on a défendu devant, à l'époque c'était le ministre Kaloumé, on a défendu devant toute l'équipe qui était là, on a défendu le projet, et le jour où on a été notifié comme étant, nous avions le meilleur prix, c'était la plus grande satisfaction face à tous ces grands noms que nous connaissions et qu'on pouvait être choisi comme meilleur. Et c'était le plus grand succès, quoi. La matérialisation...
C'était sans suite, hein?
Ouais, sans suite. Ça, c'était la dimension politique. Mais la dimension du sens que tu as travaillé, on reconnaît ton travail comme premier, c'était, je crois, que la chose la plus importante. Ça m'avait fait énormément plaisir de vous sentir que face à plusieurs, tu peux te distinguer.
Donc ça fait partie des plus beaux souvenirs que vous gardez de votre
professionnel. Oui, ça fait partie des plus beaux souvenirs professionnels. Parce que quand on reconnaît un travail fait, c'était un merveilleux souvenir.
Alors on va souffler un peu avant de parler de M. Ndondobone en tant qu'homme politique. Comment vous passez vos moments de détente?
La première chose, quand je quitte le bureau, je laisse mon ordinateur. Je n'amène pas mon ordinateur à la maison. Première chose, parce que le peu de temps que je puisse avoir, je consacre à ma famille, aux amis, tous ceux qui me sont proches.
Et vous travaillez beaucoup.
Quand même, pour être meilleur, il faut beaucoup travailler. Mm-hmm. Pour exceller, il faut beaucoup travailler. Pour être performant, il faut beaucoup travailler. Il faut faire au-delà de ce que tout le monde fait. Il faut être à mesure de vous distinguer. Donc, je n'aime pas faire ce que tout le monde fait. J'aime faire ce que les autres ne font pas. Comme ça, je me distingue. Et en cela même, quand vous allez lire, comprendre les contenus de ce que nous avons rêvé par rapport à la politique, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de différent qui n'a rien à voir avec l'existant, parce qu'on a réfléchi pour présenter quelque chose de nouveau.
C'est vous qui le dites. Alors, je vous ai demandé comment vous passez vos moments, les détentes, en famille.
En famille, en visite également, visite. Et puis les activités de partie. Donc en famille, quand je rentre, je me laisse étaler sur le canapé ou sur le lit. Je laisse tomber sur moi tous les enfants. Je m'offre qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Et je souris, je joue avec eux. Je leur donne le maximum possible les temps que j'ai à la maison. Quand je suis avec les amis, je m'offre, je leur donne tous les temps possible. Quand je suis avec mon épouse, la même chose. Et je m'arrange pour que le minimum soit fait. Je visite mes parents aussi. Je sais que mon père, il est encore en vie. Ma mère est en vie. Mon père est professeur d'université, professeur Ndondobone. Et d'ailleurs, celui avec lui que je change trop souvent pour bénéficier des conseils politiques parce qu'il est spécialiste docteur en sciences politiques et administratives, spécialiste en stratégie militaire et politique. C'est avec lui que j'échange trop souvent pour prodiguer beaucoup de conseils.
Vous m'avez dit que vous étiez diacre.
Exactement.
Ben, est-ce que vous arrive de temps en temps d'écouter un peu de musique?
Ouais, la musique, ça fait partir. J'ai encadré des jeunes au niveau de l'église, la musique, tout ça, en tout. La musique, j'écoute. Je suis quand même... J'ai été musicien moi-même. Je chantais dans une chorale à l'église. J'encadre des jeunes à l'église, je produis les jeunes à l'église. Il y a des sœurs qui, des célébrités aujourd'hui, comme des Sandra Mbouyi, c'est un enfant que j'ai fait grandir à l'église, je l'ai encadré, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Elle se développe, il y a Nisinga, il y a deux filles quand même que nous avons encadrées. Aujourd'hui, il y a d'autres que nous sommes en train d'encadrer. Et j'aime la musique.
Il n'y a pas d'hommes, il n'y a que de femmes que nous
encadrons. Il y a un garçon aujourd'hui que nous sommes en train d'encadrer, Gaylor, Miamboutsila. On est en train d'encadrer. Il y a d'autres, il y a beaucoup de gens que nous avons encadrés qui sont passés par nous. Il y a d'autres jeunes, hein, filles comme garçons qui sont à l'église. Ils sont en train de travailler. Nous les encadrons pour la gloire de Dieu dans tout ça.
Ah, donc vous n'écoutez que la musique religieuse, hein?
J'écoute la musique en tant qu'homme d'État, en tant que. Ouais, musique chrétienne, mais il y a une autre dimension d'homme d'État. Il faut connaître tout ce qui concerne, qui constitue un État. Donc, ce qui fait que la dimension de la culture, je suis obligé d'avoir une idée sur toutes les autres musiques. Parce que aujourd'hui, par rapport au projet de société, c'est que nous rêvons la culture d'une manière générale du Congo. Le choix chrétien ou pas, ce sont des convictions personnelles et individuelles. Mais l'État doit fonctionner avec toutes les convictions possibles. Donc, en tant qu'homme d'État, je m'intéresse à l'ensemble pour que je sois à mesure de régler l'ensemble des problèmes de notre communauté quand nous serons à mesure de gérer cet État. Donc, c'est une dimension plus élevée d'un homme d'État.
Alors, est-ce qu'il y a une musique qui vous ferait plaisir en ce moment, que vous aimeriez écouter?
La musique qui me fera plaisir maintenant, quelle musique? La musique chrétienne, si vous avez Exo, vous pouvez mettre ça. N'importe quelle chanson d'Exo, vous pouvez mettre ça. S'il n'y en a pas, je ne sais pas. Tout ce qui parle de l'amour, tout ce qui parle, je ne sais pas, l'amour noble, je crois que ça me fera du bien parce que l'amour, c'est étroitement lié à la personne de Dieu. Donc,
ou encore tout ce qui parle du Congo.
Ou tout ce qui parle du Congo, par exemple. L'amour du Congo, tout ça, ça me fera plaisir.
D'accord, on va demander à Dieudonné Nyankasa, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, de nous trouver une chanson qui parle du Congo, hein, de l'amour du Congo, pour le plaisir de notre invité, qui est avec nous dans ce studio, également pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli leopa. Mikolo to seka na kina mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozo banyo soto sali. Boya kobongi sa Congo aveni, ebongi to sala, ebongi to sala. Moto nyo so ata mwana. Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku. Congo ya bwanya, kasa ya mbila. Congo ya makasi, moto ya nkoi. Kala kina mosolo ya mboka Congo ekoki Tofungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongi sa Congo aveni Ebongi to sala, ebongi to sala Moto nyo sota mwana Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku Congo ya bwanya, kasa ya mbila Congo ya makasi, moto ya mkoi Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko. Congo, mboka mwana pamba, lobi, mboko lula yango. ya kitoko. Bongo ya batu mayele, bongo mbako bikita yo.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Monsieur Nodo Boni Monkoso Fillou. Il est architecte et homme politique, président du parti politique Orange. On commençait déjà à parler de votre parti politique. Vous êtes diacre. En même temps, vous vous lancez dans la politique. Est-ce que c'est compatible?
Oui, c'est compatible parce qu'en fait, la relation avec Christ nous permet d'avoir une identité. C'est cette identité que nous sommes appelés à partager avec l'autre. Parce qu'en réalité, l'homme est en crise de son identité. Quand on retrouve la véritable identité, on peut partager avec l'autre dans n'importe quelle dimension on se retrouve. Ça peut être dans la politique, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans n'importe quelle profession. Mais l'essentiel, c'est qu'on communique la véritable identité qui puisse créer le bien dans le cœur de l'autre. Et justement, c'est dans ces contextes qu'est né justement Orange, parce que nous avons constaté que les Congolais vivent dans une certaine incertitude. Le devenir du Congolais est sombre. Quand tu observes n'importe quel Congolais, il ne croit plus à son devenir. Il ne croit plus que le lendemain pourrait être meilleur. Alors nous avons dit qu'il fallait bâtir une vision, que le rêve du Congolais devait devenir une réalité et que chacun devait croire à son devenir et au devenir de cette nation. Et c'est ça la vision du Parti Orange. Le rêve du Congolais, c'est
mais c'est
possible.
Le message que tous les partis politiques donnent, la vision du Congo, oui, l'avenir des Congolais.
Justement. Mais il y a une deuxième dimension, c'est la dimension de relever la personne. Vous savez, j'ai eu le temps d'échanger avec beaucoup de gens sur le plan professionnel ou sur le plan ecclésiastique, du moins l'échange avec l'autre. Le grand problème de l'homme, pour qu'il puisse transformer son devenir, c'est le courage de se lever et de croire qu'il peut changer son devenir. Et tu peux donner le plus gros discours qui puisse exister, mais quand la personne ne bâtit pas l'espoir dans son cœur, il ne pourra rien faire. Et voilà pourquoi nous ajoutons dans la deuxième partie, le rêve du Congolais en dehors, ça devient une réalité, mais chacun devait croire à son devenir et au devenir de sa nation. Nous disons à chaque personne qui est découragée, il peut se lever et bâtir. Et nous lui disons comment il peut se lever et bâtir. Et quand les gens attendent notre discours, ils sont motivés, ils sont encouragés, ils se lèvent et ils bâtissent. Parce que nous avons tous la responsabilité de faire quelque chose. Et par rapport à cette vision, nous avons mis un plan pour matérialiser justement cette vision. Et voilà pourquoi nous avons lancé le réveil d'une génération, le réveil d'une génération dans laquelle on disait que chaque personne devait être fière de son identité. Tu dois d'abord être fier de ton identité. Deuxième chose, il faudra agir autrement et faire différemment. Et maintenant, pour matérialiser notre vision, nous avons trois stratégies. La première stratégie, c'est l'implémentation d'un leadership que nous appelons utile et transformateur du nouveau genre. Deuxième stratégie, c'est le renouvellement de l'intelligence, parce que le Congo a toujours des hommes très intelligents. Mais pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Les choses ne changent pas parce que ces gens n'ont pas une intelligence renouvelée. Il faut que chacun puisse avoir un autre esprit. C'est là que nous avons lancé la campagne Mbongwana, la campagne du changement. La troisième stratégie, c'est l'implémentation justement de notre projet de société autour de notre idéologie que nous appelons les réfondismes. Les réfondismes, c'est un concept qui n'existe pas dans les dictionnaires, mais nous croyons que dans les années qui viennent, ça va exister parce que nous avons donné un contenu. Et ces réfondismes, c'est tout simplement la refondation du Congo qui met l'homme au centre et au-dessus de cet homme-là de valeur. Et les valeurs que nous appelons les 7 points cardinaux, qui sont l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de la patrie, l'amour du travail, le respect de l'environnement, le respect du temps et le sens de l'héritage.
Alors, excusez-moi de vous interrompre, monsieur Ndondo Boni. Vous êtes diacre, en même temps président d'un parti politique. Vous encadrez plusieurs personnes au sein de l'église. Ouais. Est-ce que vous savez faire la différence entre vos activités de l'église et
Exactement.
Vos activités politiques?
Exactement. C'est la différence est nette parce que quand je suis à l'église, je me présente comme un membre de l'église. À l'église, l'église reçoit tout le monde. L'église reçoit les différentes personnes qui sont
dans
l'église.
Est-ce que vous n'influencez pas toutes ces personnes-là à vous suivre pendant votre mouvement politique?
Non. Même les différentes adhésions se font en dehors de l'église. Donc, nous faisons vraiment la part des choses. Et le vrai, en tant que leader au sein de l'église, nous avons une influence parce que les gens nous connaissent mieux à l'église. Et ils sont plus confortables de s'engager dans ce que nous faisons parce que la confiance est déjà bâtie. Il est vrai, il y a cette réalité. Mais l'identité qui est nôtre, c'est l'identité de tous les jours, en fait. Même en dehors de l'église, les gens font confiance quand tu échanges avec une personne. Je sais pas comment expliquer, mais juste au premier contact, après échange, vous sentez que la personne est prédisposée, il s'engage directement. Ça, bon, je sais pas comment expliquer.
Le fait que vous soyez leader a peut-être un impact ou une influence.
C'est peut-être tout ça. Mais du moins, la chose la plus importante, ce que nous, par rapport à Dieu, nous avons la mission de communiquer et d'annoncer l'évangile à l'église, nous le faisons. Et quand nous sommes en dehors de l'église, nous le faisons, là, nous faisons la même chose, partager la parole, l'évangile du Christ, peut-être pas d'une manière directe, mais non, par nos conseils, par la façon de vivre ou de faire, communiquer cette parole-là. Mais du moins, à l'église, nous n'influençons pas dans le sens, venez au Parti Orange, parce qu'à l'église, nous avons les gens de la majorité qui viennent à l'église. Moi, je suis Orange, c'est un parti d'opposition, mais nous sommes tous sous l'encadrement des mêmes pasteurs. Les pasteurs nous encadrent. Les pasteurs gèrent tous ces gens. Donc, c'est mal comprendre les choses, de faire les trucs au sein de l'église, quoi. Donc, mais du moins, nous puisons tous à l'église pour aller appliquer. Je ne veux pas dire en dehors de l'église, mais appliquer. Je ne vais pas dire non plus dans le monde, mais appliqué dans la vie de tous les jours.
Votre parti a été créé en 2011, nous sommes en 2016 aujourd'hui, ouais. Mais on a l'impression que, c'est pas pour vous choquer, hein, on ne sent pas le parti.
Vous avez totalement raison, vous ne m'avez pas choqué, c'est tout à fait normal. Le parti est créé en 2011, rassurez-vous, l'ensemble du parti est constitué vraiment de jeunes, les leaders du parti. Et en 2013, par rapport à notre plan, nous avons pris l'option de commencer à implanter le parti. Nous avons mis en place notre plan d'implantation. Nous évaluons à court, moyen et long terme. Nous avons lancé un projet que nous appelons TEDA, Territoire, Discours et Action. Et nous sommes en train de nous implanter petit à petit. La preuve. La dernière meeting de la dynamique au sein sur Triomphal, le Parti Orange était là. Et je crois que le Parti Orange était parmi les top 5 de partis qui ont mobilisé les personnes et qui ont été visibles. Donc c'est pour dire que le plus grand travail, c'est un travail de fourmi et de fond. Et cette année, nous avons également des objectifs. Nous travaillons en fonction de nos objectifs. Et nous ne faisons pas de courses, mais nous avons des objectifs. Nous travaillons en profondeur et nous travaillons aussi. Cette année, on sera beaucoup plus visible. Mais le travail est en train de se faire et nous avançons correctement par rapport à nos prévisions.
Alors, vous dites que le parti est majoritairement composé des jeunes.
Oui, des jeunes? Ouais, ce sont des jeunes. Notre cible de part, voilà, le nom
Orange. La jeunesse.
Oui, quand tu vois Orange, tu vois déjà que le nom est designé. Orange, ça fait wow. Nous avons fait la première convention de la jeunesse. Il fallait voir les jeunes qui étaient là. C'est vrai, nous voyons toutes les catégories de jeunes tous les jeunes, toutes les catégories. Mais la convention de la jeunesse, c'était une convention au niveau beaucoup plus intellectuel. On a pris des jeunes qui avaient au minimum un diplôme d'État dans les universités partout. Le Fatima était plein, la salle de Fatima. Ce sont les jeunes inscrits dans le parti. La salle de Fatima était pleine et ceux qui étaient là ont senti les discours, les contenus de ces jeunes-là du Parti Orange. C'est pour dire que ce n'est pas du bruit de la médiocrité, mais c'est une
sémence profonde. Vous venez avec un souffle nouveau, avec...
Justement, c'est une sémence profonde que nous sommes en train de faire, parce que nous disons qu'Orange, en dehors d'une organisation politique, Orange veut être une sémence d'une vision, d'une façon de faire, d'une façon d'agir. Comme ça, le Congo aura une nouvelle façon d'agir. Voilà pourquoi nous faisons la forte sémence auprès de cette catégorie de la personne qui sont la jeunesse. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de maman, nous n'avons pas de papa. On a toutes ces personnes, mais notre cible principale, c'est la jeunesse. Et nous avons énormément de jeunes au sein de notre parti.
Est-ce qu'aux prochaines élections, vous allez aligner des candidats
législatives provinciales, on avait déjà aligné. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. On avait aligné 27 candidats pour la ville de Kinshasa, financés par le parti. Donc vous comprenez que le parti fait un effort à ce niveau-là, financé par le parti, nos cotisations internes. Donc nous avons des ambitions parce que il faudra qu'on ait le pouvoir pour que nous puissions gérer. Le pouvoir pour nous, c'est là encore notre réflexion différente. Le pouvoir pour nous, c'est pas en réalité un objectif, c'est un moyen qui nous permet d'atteindre notre objectif. Voilà.
On va parler actualité avec vous, monsieur Fillou Ndondo Boni Monkoso. Le dialogue, c'est d'actualité. Tout le monde attend le dialogue depuis plusieurs mois. Hein. On avait annoncé la tenue du dialogue qui tarde à être organisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'abord pour
Non, le dialogue là, c'est une tricherie nationale, c'est une complicité nationale. Le dialogue n'a pas sa raison d'être pour plusieurs raisons. Prendre quelques raisons.
La première raison... on a l'impression que le processus électoral est bloqué. Est-ce que ça ne serait pas le cadre idéal pour pouvoir débattre de toutes ces questions qui bloquent le processus électoral?
Le processus électoral n'est pas bloqué. Il y a quelques personnes qui veulent bloquer le processus électoral. Donc, jusqu'à maintenant, là, c'est possible d'avoir les élections dans les délais constitutionnels.
Novembre, c'est dans quelques mois.
Oui, justement, regarde les élections de 2006, élections de 2011. Ça a été organisé en combien de temps? 4-6 mois. Tout ça était en 4-6 mois. C'était pas de longue durée.
On risque de faire des choses dans la précipitation et puis avoir des élections bâclées.
Non, ce n'est pas une affaire de bâclée, c'est une affaire de bonne volonté politique. La bonne volonté seulement. Vous savez, quand on gère, il faut assumer à un certain moment qu'on n'a pas été à mesure. Ce dialogue-là, en réalité, n'a pas de contenu. Qu'est-ce que nous allons nous dire dans ce dialogue? Toute la matière qui a été donnée par rapport au dialogue trouve leur solution au sein des institutions. Et en plus, ce dialogue, c'est une activité informelle. On ne peut pas accepter dans une république, dans un État moderne, qu'une activité informelle prenne des résolutions qui vont s'appliquer dans des activités formelles. Quelle sera la valeur juridique de toutes les résolutions qui sortiront du dialogue? Loi, ça sera quoi? Toutes ces quelle sera la valeur juridique pour que ces résolutions s'appliquent au sein des institutions qui fonctionnent d'une manière constitutionnelle? Le dialogue, c'est un cadre informel. Nous voulons bâtir un État moderne fort. Aujourd'hui, si nous réussissons à avoir un cycle normal, les élections au mois de novembre, prochainement, il n'y aura plus un homme fort qui va se dire « je veux créer un dialogue avant les élections ». Nous voulons que le cycle soit normal, chaque personne soit normale et que les choses avancent normalement. Voilà pourquoi.
Et au cas où on ne sait pas organiser les élections au mois de novembre.
Mais la Constitution est claire, la Constitution prévoit, la Constitution a tout prévu. Dans notre Constitution, tout est prévu. Si... Déjà à partir du 20 septembre, parce que 30 jours avant l'organisation des élections, la CENI est censée convoquer le scrutin, convoquer le corps électoral, convoquer les élections en fait. S'il ne convoque pas les élections, c'est ce qui fait que nous entrons dans la constitutionnalité, parce que cette réalité est inscrite dans notre constitution. Si les élections ne sont pas convoquées, nous entrons dans la constitutionnalité. Et à ce moment-là, chaque Congolais est censé, peut saisir la Cour constitutionnelle pour lui dire qu'il y a un problème de la constitution. Et des deux, à partir du 20 septembre, si les élections ne sont pas organisées, le chef de l'État actuel perd sa légitimité. Parce que par rapport à la durée du mandat de chef de l'État et les nombres, ça ne peut subir d'aucune modification et aucun prolongement. L'article 70 de la Constitution n'a sa raison d'être que s'il y a organisation des élections.
C'est dans ce sens, ça fait débat aussi, ça fait polémique.
C'est dans ce sens, justement, que le Parti Orange a fait une lettre ouverte
à la Cour constitutionnelle.
Le Parti Orange a fait une lettre ouverte à la Cour constitutionnelle pour lui signifier de la responsabilité qui lui appartient aujourd'hui de dire c'est le droit au vrai sens du mot pour que ces polémiques cessent. Et nous lui avons rappelé que tous les organes, toutes les institutions, le Sénat, le Parlement, ils ont eu ces problèmes, ils ont élidé le problème avec le fameux article 8 de la loi électorale. La commission électorale a balayé ces problèmes parce qu'elle a publié un calendrier global des élections qui n'arrivent pas jusqu'à présent à honorer. Donc ce qui fait que la balle est lancée auprès de la Cour constitutionnelle et il ne devra pas, elle, assumer la responsabilité de valider un glissement quelconque. Et il s'est rappelé qu'il y a un arrêté qu'il avait rendu, la Cour avait rendu, demandant à la CENI de publier un calendrier électoral en toute indépendance. Et la CENI n'a pas encore exécuté cet arrêt-là parce que le calendrier n'est pas encore publié jusqu'à aujourd'hui. À la place, il a publié un soi-disant calendrier pour les élections du gouverneur. Vous comprenez que chaque institution joue son rôle. Nous voulons bâtir un État moderne, grand, puissant, au cœur de l'Afrique. Chaque personne joue tout simplement son rôle et vous allez voir, les choses vont rouler. C'est tout ça, c'est tout ce
qui
va passer.
Et vous pensez que c'est l'opposition qui a une bonne interprétation de cet article, de l'article?
La lutte de l'opposition, particulièrement de la dynamique de l'opposition où le Parti Orange est membre, a une lutte noble parce que sa lutte s'appuie sur le respect de la Constitution. Dis-moi en politique, quelle autre lutte noble qu'une personne peut avoir si ce n'est que de faire respecter la Constitution? C'est la lutte, c'est ce qui fait la force, la dynamique. Les autres font des luttes en dehors de la Constitution. Nous nous disons, respectons la Constitution. C'est la loi fondamentale. Madame, on ne peut pas gérer un État de par les humeurs de chacun. Toi, tu m'as demandé ce que je mets. Peut-être toi, tu aimes autre chose. Alors, si on devra gérer le pays par rapport à ce que chacun aime, on n'ira pas, on n'avancera pas. Donc, l'unique chose qui nous met ensemble, c'est la Constitution. Donc, gérons le pays en fonction de la Constitution.
Si l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle allait dans le sens et l'interprétation de la majorité présidentielle,
mais la Cour constitutionnelle assumera les responsabilités de sa... C'est pas une menace, hein, mais il assumera les responsabilités. Et vous comprenez, aujourd'hui, tout le monde fait confiance à cette Cour. C'est l'excellence même de l'excellence de... c'est le sommet ou la sommité, je ne sais pas ce que je peux dire, de tout ce qui concerne les droits ou le truc constitutionnel. Aujourd'hui, faire cette déclaration dans le sens d'appuyer ce que la majorité a dit, même au sein de la majorité, eux-mêmes vont dire que la Cour constitutionnelle a dit que c'est un problème, parce qu'ils n'auront pas rendu correctement. Vous comprenez? Même le petit peuple va se dire qu'il y a un souci. Vous comprenez? Mais nous voulons que cette Cour constitutionnelle reste au niveau le plus élevé de par la confiance que la population est en train de lui faire pour qu'elle puisse rendre correctement avec beaucoup de sagesse, sachant que sa décision risque d'impacter négativement, positivement le devenir de notre nation.
Alors, monsieur Ndondo Boni, Dondo, j'ai du mal à prononcer votre nom, mon Dieu. Ndondo Boni, voilà mon coso. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Votre parti, le parti Orange, pour le moment, il est implanté juste à Kinshasa.
Oui, vous savez, le plan pour l'instant, les cibles, c'est Kinshasa. Nous travaillons par rapport à Kinshasa. Évidemment, il y a des antennes à travers la République, mais nous sommes concentrés beaucoup plus Kinshasa là, pour l'instant.
Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Je dis à la population congolaise que nous sommes un peuple fort, grand et puissant. Quelle que soit la médiocrité qui nous tire vers le bas, restons à notre identité de la grandeur. Et le vrai, les problèmes peuvent nous tirer vers le bas. On perd l'espoir, on perd tout ce qui est le meilleur pour nous. Mais ne perdons pas notre identité de la grandeur. Rassurons-nous du réveil d'une génération implémentée par le Parti Orange qui arrive. Parce qu'ensemble, nous sommes appelés à transformer le devenir de cette nation. Ensemble, nous pouvons et ensemble, nous devons. C'est une obligation et nous devons le faire. Que chacun lève sa tête pour que nous puissions construire différemment le devenir de notre nation. Et rassurez-vous, Orange sera toujours là. Que Dieu nous bénisse et bénisse notre pays.
Merci. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais M. Fiyou Ndodoboni Monkoso. Il est architecte et président national du parti politique Ordre pour des actions nouvelles et garante d'équité Orange au sigle. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.